L'équivalent, c'est le miroir de l'eau. Vous avez vu les deux tours? C'est à côté. Transport, on l'a fait. Bon. Alors, l'indemnité relativement... Et les frais au niveau du débranchement, à chaque fois que c'était réclamé, si les gens ne réclament pas, je ne sais pas, il y en a un qui a dit qu'il ne l'a pas réclamé, mais pour les autres, frais d'Internet, rebranchement, le câble, les frais de câble ainsi que le bel, ça a été remboursé aux étudiants. Donc, les frais inhérents à ce déménagement-là, à cette contrainte, évidemment, ça a été payé. Donc, c'est ça l'indemnité. La vie, là, pour le reste, est limpide. Bon. On nous reproche qu'il n'était pas 3 mois d'avance. Le loyer pour 3 mois d'avance, c'est-à-dire la vie pour 3 mois d'avance, dans les circonstances, vous souvenez qu'il a été envoyé le plus rapidement possible, est-ce que les avis précédents, on était en mesure de dire précisément, c'est le 1er mai, c'est le 8 mai, c'est le 15 mai. On ne savait pas encore exactement. Mais tout le monde savait qu'en mai 2000, il y avait des rénovations. Vous vous souvenez que ça fait plus que 3 mois que les rénovations étaient connues, et c'est ce que ce document-là révèle. Et ça venait quand? Tout le monde convenait que la saison estivale, est-ce qu'on vient de nous dire que la saison estivale n'était pas la plus propice? Tout le monde reconnaît, et c'est évident que le mois de mai, c'est plus propice que le mois d'octobre ou que le mois de mars. Toutes sortes de raisons, mais particulièrement eu égard à la nature de l'université elle-même qui est d'offrir des services académiques. Alors, la plupart de la clientèle visée, ça se déroule entre septembre et avril. Donc, ces avis-là, ces communiqués, ont précédé le 19 avril. Ça n'arrive pas comme on voudrait le prétendre ou comme on tentait de prétendre dès le départ. Le 19 avril, grosse surprise, on vous dit que vous devez déménager. Ça n'a pas fait tant de problèmes que ça. Les gens ont déménagé. Le problème, oui, il y a un problème de logistique, pour certains. Il y a 70 personnes qui ont réservé des chariots. Il y en avait 8 disponibles. On a offert une période de temps, combien de jours pour déménager? Entre l'avis reçu le 20, mettons le 21, la preuve est contradictoire, ou le déménagement a commencé à partir de quand? Il y en a même qui l'ont anticipé, il y en a qui ont commencé le 22. Ils ont commencé, il y avait une période, somme toute, d'une vingtaine de jours pour déménager. Et le déménagement, la preuve révèle, il y en a que ça a pris 1 heure, il y en a que ça a pris 2-3 jours, mais on se comprend que 2-3 jours, c'est déménagement et aménagement. Alors, ce n'était pas quelque chose qui arrive à l'improviste, comme la thèse des demandeurs voudrait bien le faire valoir. Ça n'a pas, il n'y a personne qui s'est retrouvé entre deux studios coincés. Il y a eu des accommodements pour tout le monde, et la preuve a révélé pas seulement les étudiants en examen, il y avait également des étudiants pour toutes sortes de raisons qui n'étaient pas présents à une certaine période d'année, ont tous pu prolonger leur séjour. Alors, il n'y a pas eu d'éviction sauvage. Comme je redisais encore l'objet de la demande, on nous dit les évictions sauvages. Alors, la preuve n'a pas, quant à moi, révélé du tout ces mots qui sont, comment dirais-je, colorent beaucoup un dossier, c'est bien évident. Mais ce que la preuve révèle, c'est quelque chose de contraire. Alors, ça a suivi donc un long cheminement. Donc, ce n'est pas arrivé comme ça à la dernière minute. Le 19. Bon. On nous dit, vous devez quitter, l'avis indique clairement du 21 au 30 août, réintégration. On nous dit que ça aurait dû être moins long que 4 mois. Au niveau des faits, je ne suis pas certain que les clients de Maître Lavigne auraient été très heureux dans la tour ouest à la mi-juillet. Admettons que ça soit disponible. Je ne suis pas certain qu'il n'y aurait pas plus de plaintes. Puis, au niveau, de toute façon, de l'avis lui-même, il le disait, c'est du 21 au 30 août. Il n'y a pas de surprise là. Si tu lis l'avis, c'est écrit, voici la réintégration projetée. Vous aviez, encore une fois, 19-26, vous aviez 10 jours pour demander que les conditions prévues à l'avis d'éviction, l'avis de déménagement, d'évacuation, pour demander de l'écarter. Il aurait pu fort bien s'adresser à la régie quand 27 avril, le 25, dans les 10 jours de la réception, jusqu'au 30 avril, ils envisageaient d'ailleurs de le faire. Ils ont renoncé de le faire. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. La preuve ne le révèle pas. Et ça ne regarde que leur conscience. Mais ils avaient envisagé de le faire. peut pas prétendre que ce sont des gens démunis qui ne connaissaient pas leurs droits. Ils prétendent dans leurs documents que ce sont des gens de multiples ressources et talents. Et j'en conviens. Conséquemment, ils connaissaient leurs droits. Les membres d'exécutif ont vraiment confirmé qu'on envisageait cet avis-là d'aller à la régie de contester. Ils l'ont pas fait. Pour vivre avec les choix qu'on fait dans la vie. Alors, cet avis était, selon nous, fort clair. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le bail. Parce que, dans le fond, pour dire c'est illégal, il faudrait avoir, dans un premier temps, le droit d'y rester, le droit au maintien dans les lieux. Mon confrère, évidemment, c'est sa pierre d'achoppement quant à cette question. Si le bail prévoit une durée de 8 mois, et dans les dépliants, il n'y a pas de cachette, dans le règlement, dans le bail, il est prévu, statut plein temps, c'est exigé, sinon vous n'êtes plus locataire. Le code dit même, mais c'est quand même assez exceptionnel, 1983, on dit, dès que vous cessez d'étudier à plein temps, une résiliation automatique. La résiliation automatique, donc, s'applique, et on a vu les décisions, les quelques décisions sur le point, il n'y a pas besoin de préavis, c'est dès le 30 avril, dans cette année 1er mai, la journée de grâce, les gens n'ont plus aucun droit d'être sur place. Ils ne sont plus considérés locataires. Alors, cette question-là, l'université, comment traite-t-elle la question? On l'a vu, c'est renouvellement, 1er septembre, vous avez droit, et c'est ce que la preuve révèle, ils réintègrent leur studio. Personne qui s'est plaint de la réintégration dans un autre studio, dans la Tour Ouest, ils ont tous pu, à moins qu'ils aient demandé de changer. Parce que ça, encore une fois, est-ce que le Code civil, en matière de logement, prévoit qu'un locataire doit changer son studio, changer son local? L'université, dans la mesure du possible, offre même la possibilité, qui, pour une fois, donc, excède les exigences minimales. On nous dit, si vous demandez un changement, on va essayer de vous accommoder. Alors, c'est un autre service additionnel qui est offert à la communauté. 1980 maintenant. Alors, outre les situations exceptionnelles, le droit de maintien dans les lieux ne s'applique pas du tout de la même façon. C'est justement pourquoi, parce que ce ne sont pas des locataires qui, a priori, vont être là 20 ans, ce n'est pas la situation de madame qui est là depuis 50 ans, qui est rendue à 80 ans, qui est isolée, qui c'est son chez-elle. C'est sûr, c'est leur chez-eux pendant le temps qu'ils sont là, mais leur chez-eux, dans 20 ans, ils ne sont plus là. Les statistiques sont claires, il n'y a pas grand monde qui reste au-delà d'un an, un an et demi. La grande majorité, 75%, reste un an et moins. Alors, il y a un renouvellement chaque année, c'est 600. Et pourquoi? Parce que, justement, c'est un pied à terre, on en convient, c'est pas un grand catégorie, c'est pas le confort d'un logement de catégorie. Ça a, par contre, plus de flexibilité, on peut le quitter quand on veut. Le logement, on est pris avec 12 mois de temps. Qu'on change d'idée ou pas, qu'on perde le statut d'étudiant ou pas, on va rester avec un bail de 12 mois. Alors, c'est ça la distinction première. On nous dit aussi, à 1980, on voulait donner de la souplesse aux établissements d'enseignement parce qu'on est fort conscient qu'il y a des particularités à une clientèle étudiante qui font en sorte que, parfois, il n'est pas toujours propice de loger les gens de différentes cultures dans les mêmes endroits, dans le même étage. Il est particulièrement... il y a des conflits actuellement qui font les manchettes. On peut imaginer que c'est peut-être pas élégant de susciter des situations qui peuvent être difficiles à vivre. Il y a également, évidemment, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, mais selon moi, ça pourrait être des motifs sérieux. C'est ce que j'invoque devant vous. Il y a également des situations où on voit une clientèle d'été. Des clientèles, et je vous soumets, on a utilisé le mot, évidemment, c'est péjoratif, des touristes. La clientèle d'été sont inscrites à plein temps, membres de la faculté des études permanentes, la FEP, et donc, eux suivent des cours académiques pendant une période donnée. Cette clientèle-là doit être, dans la mesure du possible, logée, puis c'est plus facile que ça soit logé dans les mêmes places, alors qu'il y a une espèce de facilité de communication entre les gens, et c'est la raison pour laquelle on dit, et c'est ce qui est appliqué, mon confrère reconnaît ce droit de l'appliquer, on nous dit, on le signe d'avance, conformément, si on le signe d'avance, oui, c'est vrai, vous pourrez déménager. Alors, et ça, il ne semble pas avoir de problème avec ça. Et ça, c'est un motif sérieux, les gens qui signent d'avance, peut-être les gens de Thérèse-Casimir ou Annex, eux autres sont peut-être liés par leur signature. Mais ce qu'il est en train de nous recommander par là, de faire signer à tout le monde une formule comme quoi on va déménager d'avance, les gens, et on l'appliquera au fur et à mesure, si c'est ça sa position, et c'est ce que vous confirmez comme tribunal, parfait, mais je ne pense pas que la loi aille aussi loin que ça, respectueusement. Je pense qu'il faut quand même démontrer qu'il y a un motif sérieux. Et le motif sérieux, est-ce qu'on est raisonnable ou on le fait à l'arbitraire? Alors, dans un premier temps, on prévoit déjà cette possibilité-là. Et il y a des raisons, donc des motifs sérieux d'ordre académique, et on en convient, d'ordre culturel, deuxième motif. Troisième motif, ben, là, dans le cadre de, justement, de gestion, de rénovation, est-ce que c'est pas un motif sérieux de dire à la clientèle, je vous déménage temporairement, quelques temps, dans une tour, et tout ce qu'on dit, d'ailleurs, 1980, il y a une exigence si on fait ça. Quand on déménage pour des motifs sérieux, il faut par contre reloger dans un logement de même genre que celui qu'elle occupe, situé dans les environs, un loyer équivalent. Personne ne viendra dire que c'est pas ça qui a été fait. Loyer équivalent, dans les environs, et même genre. C'est le même genre. Alors, c'est le point au niveau 1980 que j'entendais souligner également. Est-ce que ce n'est pas de toute façon respecté à la lettre les dispositions du Code civil, dans un premier temps applicable à cette situation particulière, et dans un deuxième temps, on va voir justement l'application au niveau du droit du logement, droit commun, là, même si on rentre dans les articles qui s'appliquent à titre subsidiaire. Alors, je ne reprendrai pas le temps de la cour. On a fait déjà des notes et autorités au niveau le 1er août, parce que ce qui était visé, fort habile de la part de mon confrère, on parlait de réintégration. Le 1er août, on voulait réintégrer à 2-3 semaines près. Mais là, le volet, évidemment, devient caduque. Alors, maintenant, les autres volets, on insiste maintenant sur les inconvénients puis le déménagement. Alors, si on regarde en conséquence, et par la suite, je terminerai au niveau de l'application des règlements. On nous dit ce qu'on a fait, les dommages, intérêts réclamés versus les diminutions de loyer, parce qu'on l'objet de la demande, c'est pas limpide. On fait dommage intérêt 1 500 $. Ensuite, on nous dit diminution de loyer 100 $. On nous dit 100 $ également pour toute la période où va durer l'éviction prétendument illégale. On nous dit 2 000 dommages punitifs. Et aujourd'hui, j'apprends que dans le fond, les dommages intérêt de 1 500 $, ce n'est pas en raison des troubles et inconvénients, ce sera en raison du déménagement. Alors, si c'est ça la position de mon confrère, je plaide en conséquence. Mais par contre, là où j'en ai sur la démonstration juridique faite, c'est sur le point suivant. J'ai reconnu pendant la plaidoirie de mon confrère que l'obligation de garantir la jouissance des lieux pendant toute la durée de la location demeure, quel que soit le statut individuel du locataire. Ça veut dire effectivement, et il y a un cas qui était comme ça, que la personne qui loue, et même si elle n'est pas présente pendant 2 mois, elle loue, elle a le droit, comme le révèle d'ailleurs la décision. Je vais vous soumettre les autorités additionnelles justement applicables. Alors, la première décision, c'est la même décision que mon confrère de la Cité Habitation Desjardins. On nous dit quand c'est l'équivalent d'un recours dans le fonds collectif au niveau des dommages sur les bruits inconvénients, j'en conviens. S'il y a des bruits inconvénients qui en réduisent la capacité de pouvoir jouir pleinement du local, il y aura à ce moment-là un droit au locataire d'avoir une diminution de loyer. Et ça, à ce moment-là, c'est un dommage qui est objectif pour tout le monde. D'autre part, il faut quand même regarder aussi la question des dommages-intérêts. Le dommage-intérêt, lui, c'est une question qui doit être de nature essentiellement suggestive, c'est-à-dire c'est propre à tout un chacun, et ça, c'est la décision suivante qui va traiter de la question. Il faut toujours apprécier, et vous avez également le même principe applicable à l'onglet 3, dans le in concreto pour chacun des demandeurs, quel est le dommage particulier. Donc, ça devient important de savoir ce qu'il est là, il n'est pas là, et on va en traiter. Il y a des situations juridiques tout à fait particulières au niveau des dommages intérêts. Mais la personne qui prétend qu'elle a des dommages, qu'elle a droit à une réduction du loyer, c'est pas que la preuve révèle, et il y a une chose qui a été acceptée depuis le départ, et c'est le document D8 et l'enquête qu'on a fait également là-dessus. Il y a une indemnité.
D8, c'est quoi ça?
D8, c'est le. C'est D8. Je pense que ça a été déposé par mon confrère, le document D8,
donc,
c'est l'indemnité. L8, excusez-moi. L8. En fait, les troubles inconvénients, on a décidé d'évaluer les troubles inconvénients. Il y en a reconnu qu'il y avait des troubles inconvénients. Là, je crois ici. À 40 $. Et on a calculé, c'est une période de 4 semaines. Et à 8 heures par jour, 5 jours par semaine, on évalue en fonction du montant du loyer payable. 40 $ pour les studios simples, 40 $ pour les studios doubles, 70 studios doubles. Alors, il y a une reconnaissance à ce niveau-là, dans un premier chapitre. Alors, évidemment, devant vous, je vous fais uniquement soumettre, et c'est à vous d'apprécier si l'indemnité est suffisante ou non. C'est questionné par mon confrère qui demanderait une indemnité de 100 $ par mois. Évidemment, la question de la période, je vous soumets, n'est pas une période de 4 mois, comme mon confrère voudrait même le soumettre. C'est une période, quant à moi, qui devrait être au niveau des inconvénients 1 mois, voire 2 mois, mais la preuve révèle certainement pas 4 mois. Moi, septembre, je n'ai pas entendu de commentaire. Mai-juin, au niveau des locataires, la plupart, ils venaient de la Tour-Est, sont allés à la Tour-Est. C'était pas encore bruyant à ce moment-là. C'est devenu bruyant mi-juillet, fin juillet, et on reconnaît cet état. Alors, les travaux, par contre, et c'est pour ça qu'on a aussi, évidemment, c'est une question d'appréciation, il n'y a pas une règle mathématique exacte. Est-ce que la diminution visée, est-ce que c'est 50% comme vise mon confrère? La situation des habitations des jardins, dont on a déjà traité, a effectivement une troisième diminution de 50% du loyer pendant la période concernée. Il faut voir l'ampleur des travaux, il faut voir exactement aussi la période des travaux. Ça commençait à 6h30, 7h le matin, se déroulait jusqu'à 7h le soir, 6 jours par semaine. Et les travaux étaient, je pense que Maître Lavigne connaît fort bien la décision, il l'a plaidé. Alors, les travaux étaient, comment dirais-je, de plus grande amplitude, et ça a justifié 50% de dommages. Mais on peut décrire, là, la description des bruits et autres se retrouve à 401, c'est l'horaire des travaux, 6h30 à 9h, et 402, description des travaux à la page 402 de l'onglet, 404, vous avez à ce moment-là les conséquences. Et ça a été donc, le régisseur, le maître Hurlet, avait effectivement employé à 33 et un tiers, à 50% et 7,5. La deuxième décision au niveau du pourcentage octroyé, on a eu un 33,1%, diminution de loyer de 3 mois. Et je soumets encore une fois que la preuve révèle que la personne a dû littéralement quitter son logement, c'était invivable, il vivait avec son enfant, et le couple a dû quitter avec son enfant de 2 mois, il ne pouvait pas rester en place, et pendant toute la période, donc il ne pouvait même pas bénéficier de son logement, des meubles et tout ça, et on a octroyé un 33,1%. Et je vous souviens, à la page 73, on relate les troubles qui ont été vécu. Par contre, à ce même passage de la page 73, on nous dit que le tribunal trouve que dans l'évaluation du quantum des dommages, la situation particulière de la victime est toujours considérée et doit être considérée. Alors, dans ce cas-ci, il y a eu des dommages, évidemment, octroyés, puisque la situation de la victime était particulière. La diminution, c'est une chose, les dommages intérêts, c'est une autre chose. Même chose dans Véronique Milkovitch, donc la 3. Alors, droit au sens des biens, demande d'émission de loyer. Les travaux commencent à 6h45 le matin, c'est la première page, se terminent vers 21h. Alors, il y a de l'équipement lourd, fonctionnement de génératrice et de pompe 24 heures par jour, et les journées de travail qui se terminent donc vers 21h, et commencent à 6h45. À Alors, le loyer était 370 $ par mois dans cette décision-là. Et on a octroyé, en conséquence, une diminution de l'ordre de 100 $ par mois pour la période visée par les travaux. On a dit, vous n'avez pas droit à des dommages et intérêts. Par contre, le seul inconvénient pour le demandeur dans ce cas-ci était la question, c'était Maître Jourdan encore qui a rendu une décision, le fait que son témoignage lui se faisait réveiller matinalement à 8 h AM. Alors, par conséquent, c'est un préjudice de réveil brutal. Et on a entendu une certaine preuve à ce sujet-là. Plusieurs personnes, 8 h, 9 h, se faisaient réveiller. Et en conséquence, c'est un peu similaire à ça. Par contre, il quittait son logement jusqu'à 2 h du matin. Alors, il n'y avait pas de prise de ça. Alors, au niveau, bon, rénovation d'un autre logement, et ça, c'est peut-être une décision qui est intéressante à plusieurs niveaux. Au niveau tant des dommages punitifs, c'est votre collègue Maître Lightstone qui rend Blackstone une décision qui concernait également des dommages, des demandes en dommages punitifs et exemplaires. Et pour revenir sur la décision que citait mon confrère là-dessus aussi, dans les dommages punitifs exemplaires, il faut une conduite, une intention volontaire de nuire. Il faut voir qu'est-ce qui a été fait à la page 144 de cette décision. Il y a eu une interruption de l'eau chaude, il l'a carrément coupé. Il y avait un contexte de grande agressivité entre les parties et en conséquence, il y avait matière à dommages punitifs. Je ne reprendrai pas toutes les décisions, citer les décisions au niveau des dommages punitifs tard d'octroi, mais je vous avoue, je suis surpris ce matin d'entendre encore une demande de dommages punitifs. Je pensais que la preuve allait être, comment dirais-je, éloquente à la suite de la défense. Peut-être qu'a priori, sans savoir exactement pourquoi l'université et les résidences ont envoyé des avis à telle date, je pouvais encore concevoir le 1er août qu'on pourrait se poser peut-être des questions. Mais je pense non. Mais après, la preuve a révélé pourquoi la séquence des événements s'est accomplie de la façon suivante. Où peut-on voir une conduite fautive? La cherche. Alors, la seule conduite fautive, c'est qu'on aurait dû, selon Maître Lavigne, savoir il y a 3 ans qu'on avait 12 millions, qui étaient disponibles 12 millions dans nos coffres, et qu'on aurait caché volontairement une information pendant 2-3 ans, puis qu'on aurait décidé à la dernière minute, ah, ça va être intéressant, c'est cette année qu'on emmerde le monde. C'est un peu la thèse qui est véhiculée par la partie adverse. C'est pas ça qui est fait. Au contraire, c'est une situation qu'on a dite et redite, confirmée à l'enquête, c'est pas une situation facile, une année de transition, une rénovation majeure. Mais est-ce qu'on nie la pertinence? Pas du tout. Est-ce qu'on nie le fait que ça a été, dès que c'était fait et connu, on a envoyé les communiqués? C'est-à-dire, dès que l'avancement de l'état du projet était, il y avait une étape franchie, on l'a fait connaître à l'ensemble des intervenants. On ne l'a pas conservé dans le tiroir pour le sortir à la dernière minute. Ça a été, au contraire, véhiculé par tous les avis possibles. Il y a une séquence d'avis, une séquence de rencontres qui le révèle. Et il y a ce maîtresse, je crois, pourquoi peut-être on ne voulait pas qu'on la produise, mais le document de janvier 2000 est assez limpide. Il y a plusieurs, je vous signale, vous pourriez lire avec intérêt dans les signataires des pétitionnaires à la fin. Un petit pétitionnaire, j'ai pris connaissance du projet de rénovation et je suis en désaccord sur certains systèmes là, qui font leurs commentaires. Sur 79 demandants, il y en a pas 53 signataires. Alors 53 ont signé une pétition. Alors, ils reconnaissent qu'ils sont au courant des rénovations, mais ils nous disent après, dommage punitif, hein. Demande de dommage punitif, c'est fait de façon sauvage. En fait, je laisse la Cour apprécier la pertinence. Au niveau maintenant, de l'application, on en fait grand cas, là, le règlement et l'annexe signée le 19 avril 1999, on nous dit sous contrainte. On nous dit qu'il y avait des craintes, si je ne signe pas, on va être expulsé. Il y en a qui ont lu ça dans la lettre. On nous demande où est-ce qu'on pouvait le voir, mais il y en a 2-3 qui ont dit « je pense que je vais être expulsé ». Peut-être une barrière culturelle, mais je soumets que ce n'est pas un cas isolé. C'est pas une personne démunie, c'est une communauté universitaire, donc ce sont des gens a priori lettrés, au niveau universitaire, c'est pas tout le monde qui a la chance de se rendre jusqu'aux études universitaires. Malheureusement, on vise une clientèle des 50%, 80% de la population, si c'était possible. Mais les gens qui ont la chance de faire des études universitaires, qui disent qu'ils ne lisent pas les documents, j'ai un problème personnel avec ça. Et deuxièmement, ces gens-là, de toute façon, ne sont pas seuls non plus. Déjà seul, est-ce que c'est une erreur excusable? L'article 1400, je pense, le 14 mai du Code civil, entrait. Mais en plus, ils sont chapeautés par une association qui n'a, et on l'a décrit, le but de l'association en long et en large, gère un budget d'un demi-million, ils ont un café, anime la vie, ils représentent les intérêts, ils l'ont représenté, ils ont eu des gains, ils sont très fiers de l'annoncer. Et j'en conviens qu'il y a eu des gains, justement, il y a eu des gains, mais il y a eu des choses sur lesquelles ils ont dû céder, la nécessité de l'innovation. Je pense qu'on ne pouvait pas, l'université a décidé que les toilettes mixtes, ça suffisait. Les locataires n'étaient pas d'accord, certes, mais c'est une décision, à un moment donné, qui a été prise. Alors, ces gens-là sont représentés, ils sont, dans la tour ouest, ils étaient 400. 200 quelques désiraient rester l'été, prolonger leur séjour. Il y en avait donc plusieurs dans ce cas-là. Et ces gens-là se sont fait conseiller, recommander. Pour ceux qui ont demandé de l'information, il y en a qui ont dit « je consulte personne, puis je sais ». Bon, alors ça, le régisseur pouvait très bien en traiter, là. Mais je dis, pour ceux qui ont pris la peine de consulter, qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, on leur a dit, signez. C'est nul de toute façon. C'est ça que la preuve révèle. Alors, quand on dit, c'est nul de toute façon, au niveau des autorités, et qu'est-ce que protège, qu'est-ce que veut protéger la loi en matière de louage? C'est justement de interdire dans les baux des clauses qu'on ne peut pas utiliser, les exigences payées de loyer d'avance, entre autres. Il y a toutes sortes de clauses qui sont, et ça c'est d'ordre public, même des directions, nulles, de l'unité absolue. La plupart des clauses en matière locative, on en convient, sont d'ordre public. Mais je ne prendrai pas le temps de la Cour de vous citer en long et en large les commentaires de 10 et 11 en doctrine. Les obligations et contrats, c'est la collection de droits cette année, les règles particulières du bail de logement, domaine d'application, mais qui traite de la question des applications, justement, des articles 18, 95 et suivants en matière d'ordre public. On reconnaît, la jurisprudence applicable reconnaît, c'est d'ordre public de protection et non d'ordre public de direction. Ça nuance. Ben, du moins, pour certains articles, vous avez raison, là, je ne dirais pas dans l'absolu, mais pour la plupart, vous s'entendre, c'est d'ordre public de protection. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je suis au courant de l'illégalité, je renonce. Ben, à ce moment-là, où est le préjudice? Et on a vu qu'il y a des jurisprudences qui vous sont citées. On dit, bon, l'avis est peut-être tardif, mais sachant qu'il est tardif, je décide de le ratifier, de le confirmer, en faisant quoi? En payant le loyer modifié, même s'il était hors délai. C'est accepté par les parties. À ce moment-là, ça va faire la loi, la convention des parties. Ce qui est interdit, c'est à la limite une question d'une personne qui ne connaîtrait pas ses droits. Et là, on peut dire à la personne qui ne connaît pas ses droits, bien, à ce moment-là, on ne peut pas dire parce qu'elle a signé quelque chose ne sachant pas que ça peut être illégal. Bon, dans certains cas, on a dit, bon, on va tolérer, on va dire c'est pas exact, c'est l'ordre public de protection va malgré tout s'appliquer malgré la signature, dans certains cas. Mais quelqu'un qui connaît le motif d'illégalité, il est dans une case ailleurs, il est dans un terrain tout à fait autre. Lui, il dit, c'est illégal, je le signe, parce que dans le fond, ça n'a pas de conséquence. Ce que je signe n'a pas de conséquence. Et ça, c'est pas du tout ce qui était visé dans la protection offerte en matière locative. Parce que là, on fait un nouveau contrat. On entre dans un domaine où les gens savent fort bien ce qu'elles font, mais on nous dit, l'épée de Damoclès, c'est que malgré que je sais que c'est ici, mais c'est ça qui est arrivé dans ce cas-ci. Pendant 2 mois, l'épée de Damoclès, c'est illégal, je vais vous poursuivre, je ne poursuivrai pas, on va voir, on décide de poursuivre. Une décision qu'on fait à cette époque-là, il aurait pu fort bien décider collectivement. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il regrette aujourd'hui, mais ça, c'est pas, je suis pas dans la peau et dans la salle de réunion de l'ARCOM et des locataires qui sont impliqués dans ce domaine-là. Mais peut-être qu'ils auraient dû rester, selon leur thèse du 19 avril, dans les lieux. Peut-être qu'ils auraient dû dire et recommander à leurs membres de ne pas signer l'annexe. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont recommandé l'inverse. Déménager, signer. C'est quoi la conséquence? Les gens ont signé. Alors, on nous dit, le règlement, ils ont signé après donc le renouvellement du 1er mars et le règlement qu'ils appliquaient. C'est les conditions qui changent. Alors, parfait. Les conditions qui changent. Je vous réfère immédiatement à la décision à l'onglet 8. Il nous dit en cours de bail, bon, ça fait 2 ans, madame avait une mini-sécheuse dans son logement. Et en cours, on n'envoie pas un avis de modification du règlement applicable à son logement. On lui fait signer un document. Et on lui dit, voici, il y a un ajout, la clause 5 interdit dorénavant la présence de la sécheuse. Alors, si je vous réfère à la page suivante, alors j'ai signé ces clauses additionnelles-là. Là, c'est ce que révèle la preuve. On les a signées, on lui a dit, voici, maintenant, on change. Mais c'était, il y avait un avis qui n'avait pas été suivi, on le change, donc après coup. Alors, il dit, évidemment, à la page, en bas de la deuxième colonne, dans l'absence d'un tel avis, le locataire ne peut donc forcer le locataire à accepter une modification au bail ou une augmentation de loyer. Toutefois, ceci n'a pas pour effet d'empêcher les parties de s'entendre sur un nouveau bail. S'opposer à de telles conventions serait couler dans le ciment les relations entre propriétaires et locataires, ce qui serait beaucoup plus néfaste que bénéfique, d'autant plus que le caractère d'ordre public déclaré par 1664 de l'époque en est un, semble-t-il, de protection. Par le fait même, la locataire, en signant son bail et les clauses additionnelles le 12 mai 86, convenait avec le locataire d'une nouvelle façon de procéder. Comme il s'agit là d'un nouveau contrat auquel elle a acquiescé, que cette nouvelle entente ne peut être annulée en fonction des clauses de nullité du contrat, il doit donc lui donner application. Et après, on regarde est-ce qu'il est raisonnable ou pas. Mon confrère dit, bon, est-ce qu'on peut l'annuler? On a signé en toute connaissance de cause un règlement qui dit, dans le fond, ce qui modifie par rapport au règlement ancien, c'est que la question du frigo, on a convenu qu'au niveau de l'affichage, là, on précise de façon plus particulière les exigences. On a témoigné des besoins et du pourquoi de ces règlements-là, eu égard au type de clientèle visée. Et c'est aussi ce que la jurisprudence révèle, il faut regarder dans la raisonnabilité d'un règlement à qui on s'adresse lorsqu'on fait un règlement. Le critère de raisonnabilité doit s'appliquer en fonction du logement visé. Alors, pour apprécier le caractère raisonnable, je vous réfère à l'onglet 6. Le règlement de régie doit tenir compte du contexte dans lequel celui-ci s'applique. À la page 200, donc c'est l'onglet 6 de la cause Denise English contre Villa Express. Dans ce règlement-là, on interdisait toute boisson alcoolique dans le logement.
Villa Express pour toi.
Pardon?
Villa Express pour toi.
Vous êtes effectivement un professeur, je vois. Alors, donc, faut...
Non.
Pourquoi? Je
suis professeur, c'est l'université.
Vous n'êtes pas professeur. OK. Alors, la question de la raisonnabilité s'applique dans évidemment le milieu visé, le type de clientèle particulière auquel s'adressent les résidences, la brièveté du séjour, la possibilité d'une autre fin, on ne veut pas faire des règlements. Écoutez, on dit l'affichage externe, jamais mettre des avis, jamais faire des choses. Et en conséquence, on bride mes droits. Mais l'affichage externe, ça n'a jamais été. On voit l'abus. Là. Si tout le monde faisait. Si on commence à dire pas de problème, c'est sûr que on introduit quelque part une petite exception. On va devoir par la suite juger. Cas par cas, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique à l'extérieur. Ce qu'on sait, c'est que dans les années antérieures, il y a eu des abus, il y a eu des plaintes qui en ont résulté, eu égard au fait qu'on a, veut pas, dans un milieu proche, plusieurs barrières culturelles applicables, et plusieurs, personnes ne voient pas les choses de la même façon, et les affichages externes, je pense, au niveau de raisonnabilité, tout le monde le conçoit, ça n'a pas tant que ça l'objet d'un gros, gros problème. C'est en plus que des accommodements visibles. Au niveau des salons, c'est des parties communes. Le propriétaire, je pense, c'est pas parce qu'on est locataire. Dans les parties privées, c'est une chose. Dans les parties communes,
me dis tout simplement, tu sais, dans les années passées, il y a peut-être eu, dans combien, des choses faites, des choses qui pouvaient être fort artistiques. On l'a vu lors de la visite, il y en avait d'autres qui l'étaient peut-être moins. Et le problème qu'on a, c'est qu'une fois que c'est fait de telle façon, à partir de quand doit-on l'enlever, à quel moment c'est pas enlevable. Tout ce qu'on sait, c'est que, veux pas, il faut penser aussi non seulement au présent, il y a le futur également. Dans 2 ans, la plupart des demandeurs ne seront pas là. Il y a une chose qui est certaine, l'université dans 2 ans va encore louer des résidences à des demandeurs, des locataires. Et en conséquence, il faut viser aussi, l'institution a un devoir vis-à-vis non seulement ses locataires actuels, mais elle doit respecter dans ses droits, elle doit également respecter dans les droits, dans ses propres droits à titre de locataire, de faire respecter évidemment un minimum de conformité, de standardisation quant à l'état des lieux, surtout aux parties communes. C'est pas brimer pour brimer que l'université ou les résidences décident de faire appliquer ou non des règlements, c'est tout simplement une question de, en toute bonne foi, de raisonnabilité, de tout simplement de faire des choses qui sont en la matière possibles. Bon. Alors, on a ici, tout simplement, je vous disais, au niveau de l'affichage, madame signe après coup. Madame signe après coup un bail qui modifie les situations au niveau de la sécheuse, les conséquences. On les voit. On nous dit tout simplement, donc, est-ce que ce règlement-là, est-ce que c'était de toute façon, on veut nous faire croire que c'est une grosse modification. C'est sûr, c'est spectaculaire de dire, c'était aberrant cet annexe-là, c'est tellement nouveau. Mais je vous souviens dans les décisions de l'ongle 7, intitulé Office municipal d'habitation de cette île contre Winsel. C'est compléter la décision. Une décision de la Cour du Québec qui simplement confirmait la décision de la régie. On nous dit les règlements, une fois qu'ils sont annexés au bail, même si pendant plusieurs années on décide de ne pas les appliquer. Ce n'est pas une raison, la tolérance n'est pas un obstacle à l'application du règlement. Et cette décision, justement, nous disait, bon, pendant des années, on tolérait la présence des animaux. Et au jour donné, on n'envoie pas l'avis de modification, on veut appliquer au locataire présent la question d'une application du règlement après plusieurs années. Alors, dans cette décision-là, le juge fait état demande la question et tout simplement disent on ne peut pas prétendre, dans la décision, tout simplement le résumé d'arrêtisme, les locataires ne peuvent prétendre que l'attitude tolérante du locataire conjugué au fait de ne pas avoir eu d'exemplaire des règlements d'occupation de l'immeuble avant signature du bail a vicié leur consentement. Tous les locataires connaissaient l'existence de cette clause interdisant les animaux. La tolérance du locataire, dont les locataires étaient conscients, ne peut être une cause d'erreur. Ça, là, c'est si on relit le règlement qui était annexé en mars. On le dit clairement. Et pour des raisons de tolérance, oui, la preuve a révélé qu'il y avait de la peinture qui se faisait dans certains studios. Ça s'est fait dans les années antérieures. Et oui, pourquoi? On le conçoit, là, vous dites les studios, ça fait 30 ans, la peinture, on nous a reproché de ne pas agir justement, il était temps qu'on fasse quelque chose. Ben oui, alors à ce moment-là, vous dites la peinture, on était peut-être plus tolérant, autant que ce soit peut-être pas épouvantable, mais on était tolérant. Maintenant, on vient de rénover. Alors, le règlement qui existait depuis de nombreuses années, on décide, on va l'appliquer maintenant, et on le dit dans la vie du 19 avril. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que les gens ont tous vu, le règlement. Plusieurs disent ne pas le lire. Non. Alors, est-ce que ce règlement-là ne pourrait pas de toute façon déjà prévoir que... Mais on l'a signé après l'annexe. Alors, on réitère des circonstances, et on, dans le fond, on dit tout simplement, quant au, de la tour ouest, là, dorénavant, voici les règles du jeu, et on offre, comme on dit à 1980, on offre une porte de sortie, c'est pas une contrainte épouvantable qu'on fait, parce que 50 sur 79 voulaient de toute façon frigo. Alors, c'est pas, la location en soi, c'est pas quelque chose d'épouvantable au niveau du frigo. C'est pas conserver ses meubles ou pas. L'ERCOM elle-même, à son avis du 22 août, recommande à ses membres de vendre vos meubles parce que les nouveaux logements, là, de toute façon comment c'est fait, là, vous ne pouvez plus garder vos futons, c'est plus pratique, les meubles, on vous recommande d'en disposer. C'est l'avis du 22 août 2000, qui est B4. Vous lirez cet avis-là, on recommande même mon
enfant. Je peux vous assurer, j'ai pris le midi d'hier, une partie de soirée pour l'écouter.
B4, c'est ça. Donc, c'est pas une grosse contrainte au niveau de la raisonnabilité dans un premier temps. Puis, au niveau de toute façon de la faisabilité, si on veut justement réintégrer de la tour ouest, c'est ça, c'est ce qui est connu depuis quand même longtemps, le studio rénové va ressembler à ça. Alors, en le rénovant, ça a des modifications par rapport à la situation ancienne. Et on veut, à ce moment-là, on va le faire tout en même temps, mais on offre un privilège, tu sais, on vous dit, s'il y a des contraintes, ils l'ont signé, mais même s'ils ne signaient pas, là, on veut quand même, pour montrer la bonne foi à ce niveau-là des résidences, que si ça vous cause des problèmes, de toute façon, on va vous laisser dans un autre studio équivalent, similaire, même loyer. Vous pouvez rester dans Tourest ou ailleurs, là, vous demandez votre changement de studio quand ça vous tente. Il y en a qui s'en sont prévenus, d'ailleurs. Si moi, je peux rester dans une tour équivalente. On me dit que ce n'est pas un gros déplacement, ce n'est pas un déplacement de 4-5 rues, voire de ville, c'est un déplacement d'une tour à une autre, tout simplement pendant le temps qu'il va. Et si vous voulez les nouvelles conditions, alors même en l'absence du quatrième, on vous demande tout simplement de vous le confirmer. La contrainte, on nous dit, c'est épouvantable, si je ne filme pas ça, je vais être expulsé. C'est pas ça le document. Il est écrit nulle part. Et si l'association doivent normalement les représenter, et qui les représentent d'ailleurs fort bien, disent, vous savez ce document-là, là, si vous ne signez pas, vous allez être expulsé. Ben, je pense que c'est une mauvaise connaissance de la loi en général et de la protection offerte par la régie du logement. Si on avait tenté d'expulser les locataires, tout simplement, je pense qu'on serait devant vous sur d'autres motifs. Il y aurait peut-être une application justement à des demandes de dommages punitifs. C'est pas ça qui a été fait. C'est tout simplement, vous voulez ou non un studio rénové, voici les conditions. À libre à vous d'accepter ou non. Et ça a été signé. Alors, conséquemment, pour vivre avec ce choix-là, ce n'est que la protection dans les circonstances de la loi a été largement applicable. Alors, la jurisprudence, elle est là. Et je vais faire ma conscience, comme dit, sur le niveau individuel. Mais juste pour dire, aujourd'hui, on a tout fait en sorte pour réduire au maximum les inconvénients de la situation. Quand les bruits commençaient à 9h, c'est-à-dire avant 9h, Mme Bellil a dit qu'elle était informée qu'il y avait des plaintes. Mme Mécaille allait indiquer à Mme Bellil, faites quelque chose. Mme Bellil, elle-même sur place constamment, allait faire les représentations conseillées. Et la preuve révèle d'ailleurs, la plupart disent, il faut faire la statistique appropriée, je relève tous les enquêtes, là. Avant 9h, il y a des inconvénients particulièrement certains, là, mais la plupart des bruits, ça commençait à 9h. Et jusqu'à 17h, 18h, lundi 17h15, 17h30, certains jusqu'à 18h. Mais le gros des travaux s'accomplissait dans des heures justement hors normales, c'est-à-dire de 9h à 17h, pour réduire au maximum. Le dimanche, minimum, il n'y a pas eu grand plein. Et le samedi, il y a eu quelques travaux le samedi, mais la fin de semaine réduite au maximum également. Dans les circonstances, je pense que les résidences ont fait tout en leur mesure pour justement, à propos de l'ampleur des travaux, agir en conséquence et réduire les inconvénients.